France Culture.
Et les midis de culture, c'est reparti. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, je recevrai la réalisatrice Mona Achache et l'écrivaine Lola Lafont. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Rebonjour Marie.
Bonjour à tous. Contrairement à une idée reçue, les femmes artistes ont depuis toujours peint des nus. Alors c'est ce que l'on apprend grâce à l'historienne de l'art Camille Morino qui remonte l'histoire et dévoile ce que la société n'a pas voulu regarder. Le nu représenté par des artistes femmes, c'est le dossier du point culture du jour. Camille Morino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire d'exposition, historienne de l'art et vous venez de faire paraître aux éditions Flammarion « Oser le nu représenté par les artistes femmes ». Alors on a beaucoup entendu parler ces derniers temps du « male gaze », ce regard masculin. Existe-t-il, selon vous, un « female gaze » dans l'histoire de l'art? Est-ce qu'on peut employer cette expression-là?
Je pense qu'on peut et je pense même qu'on doit en réalité. Et ce livre est un des exemples de l'apparition de ce female gaze très tôt en réalité, dès la Renaissance, dès le moment où les femmes commencent à signer des œuvres et commencent à s'attaquer à ce qu'on considère comme étant un sujet vraiment tabou, c'est-à-dire le nu.
Est-ce que vous pourriez, vous, définir ce female gaze à travers l'histoire de l'art comme vous le racontez dans ce livre-là? Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Alors ça veut dire plein de choses en fait. C'est la manière dont les femmes se réapproprient le regard sur le corps très tôt. Pas forcément pour que, d'ailleurs, le résultat soit différent du regard des hommes. Je prends par exemple l'exemple du corps du Christ, qui a été représenté par des hommes et par des femmes très tôt, parce que c'était un sujet obligatoire, mais qui sous-entend de représenter un corps nu. Donc, dans ce cas, les femmes ne vont pas représenter le corps très différemment des hommes parce que les contraintes sont trop fortes. Mais dès que les contraintes s'assouplissent un tout petit peu, c'est-à-dire que dès que l'artiste devient une personne qui a une liberté sur la représentation, eh bien, on voit apparaître effectivement des différences qui vont définir ce que j'appelle ou ce qu'on appelle le female gaze, c'est-à-dire comment les femmes portent un regard différent lié à leur genre sur un sujet aussi important, aussi vibrant que le corps, à commencer par leur propre corps, parce qu'elles vont beaucoup se prendre comme modèles, mais pas seulement. Et là, elles vont avoir des choses à dire, et des choses à dire qu'on retrouve, nous, en faisant un petit effort, en fait. En regardant les détails, en regardant le style, et ces détails vont définir justement ce female gaze.
Alors, quand vous dites les femmes ont représenté très tôt, par exemple, le corps du Christ, je vous écoutais, mais moi, j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête de noms de peintres femmes qui auraient représenté très tôt des nus. Est-ce que on peut quand même dire que ces femmes-là, elles ont été invisibilisées?
Oui et non, parce que invisibilisées. Par l'histoire de l'art, oui, parce que ça n'est qu'il y a quelques années que de grandes monographies apparaissent sur les femmes de la Renaissance, je pense aux Italiennes par exemple, à certaines Espagnoles. La recherche progresse et cette recherche fait émerger des femmes. Pourtant, quand on regarde la vie de ces femmes, on se rend compte qu'elles ont été reconnues de leur époque, qu'elles ont été même parfois célèbres.
Donc c'est ça. Ah, donc c'est l'histoire qui les a oubliées.
C'est l'histoire qui les a oubliées, absolument. Et c'est vraiment bien souvent le cas pour les femmes. Elles ont été relativement reconnues de leur vivant. Elles ont reçu une éducation. Et l'éducation, c'est très, très important dans l'histoire des artistes de femmes, notamment dans l'histoire du nu, parce que on a pensé qu'elles n'avaient pas d'éducation au corps nu ou pas d'éducation au corps tout court, pas de savoir de l'anatomie. Et donc, impossibilité pour elles de représenter ce corps auquel elles n'avaient pas accès. Bon, évidemment, l'histoire est fausse. Parce que, et là je rigole un peu dans mon livre à certains moments, parce que le premier accès qu'elles ont, c'est leur propre corps, c'est évident. Et assez vite, en fait, soit leur père, soit leur frère, enfin leur entourage familial, va leur permettre d'avoir l'éducation au corps, l'accès à des corps de classe nue. Alors ça, c'est un petit peu le sujet tabou pendant des siècles avant le 19e, et même au 19e, fin 19e, on pensait, et moi la première, que les femmes n'avaient pas accès aux classes de modèles nus. Or, c'est faux, là aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'académies privées qui ont donné l'accès à ces corps nus. Et donc, l'apparition, là, pour le coup, massive, et quand je dis massive, c'est vraiment massif, de corps nus au début du siècle, dans les années 10-20, où là, on a toute une génération de femmes qui sortent de ces classes et qui vont produire des nus. Et là, on a donc une apparition massive de ce female gaze sur le nu.
Donc, quand on reprend le titre de votre ouvrage, Oser le nu, en fait, les femmes, elles ont toujours osé peindre les nus.
Absolument. C'est ça qui est intéressant. Alors, pardon, je ris parce que c'est un sujet Aujourd'hui, on a un petit peu besoin de rire et d'être positif hein, sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, on s'approche du 8 mars, donc je pense qu'il faut se réjouir. Mais oui, effectivement, elles ont toujours osé. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que la recherche progresse, mais dans celles qu'on trouve, c'est très fort. Je pense par exemple à Artemisia Genkideski, qui fait partie de ces redécouvertes, entre guillemets, parce qu'elle a été découverte relativement tôt. Donc, cette Italienne au 17e, qui a été formée par son père, et qui a produit des tableaux très forts, un peu dans l'esprit de Caravage, avec des effets d'ombre et de lumière, des femmes qui tuent des hommes. Là, je pense à des personnages mythologiques ou de l'histoire en général. Mais elle a aussi produit des nus. Par exemple, une Danaé que je trouve magnifique, elle a peint en 1612, qui est une femme qui, vous savez, reçoit une pluie d'or et où se fait violer par un cygne. Donc là, la représentation est très, très, très... très effacée de la présence de ce viol et de ce cygne. On a essentiellement une femme nue qui a l'air plutôt d'être tranquille, de rêver ou de dormir. Et puis, dans l'arrière-fond du tableau, ces petites pièces d'or qui se déplacent, qui sont à peine visibles. Donc là, on a vraiment une interprétation du mythe dans le sens de la puissance du corps de la femme, qui est finalement assez intouchable, pas du tout abîmée, ni même pénétrée. Mais on a plutôt l'impression qu'elle rêve en fait de ce qui arrive, et c'est vraiment pour moi une œuvre absolument magnifique.
Est-ce que vous diriez que puisque les femmes ont osé peindre des nus, c'est nous, alors j'entends le nous en termes de collectivité ou de société, qui n'avons pas su les regarder ?
Oui, absolument. C'est ce que je dis très vite dans mon introduction, et je m'inclus dans ce nous, c'est-à-dire que j'ai moi-même une conception modeste hein, de mon regard d'historienne. C'est-à-dire que j'ai commencé par apprendre l'histoire de l'art, d'abord sans du tout d'artistes femmes dans les manuels, puis une histoire de l'art avec quelques artistes femmes, mais pas de nues. Et donc, ça a été assez difficile pour moi de sauter le pas, d'une certaine manière, même mentalement, de me dire, bon, il faut que je m'autorise à trouver des nues. Et à partir du moment où je me suis autorisée, j'en ai trouvé beaucoup. Effectivement, c'est un sujet tabou. Et à partir du moment où on dépasse ce tabou, on en trouve, on en voit. Et je ne doute pas que ce livre va donner lieu à d'autres découvertes, j'espère. Et que du coup, on va vraiment avoir une conception différente de ce genre, parce que le nu est un genre très important dans l'histoire de l'art. C'est un genre par lequel les hommes et les femmes se sont appropriés justement la connaissance du corps, de l'anatomie. C'est très difficile de dessiner un nu parce que c'est un corps, parce que ça bouge, parce que ça parle, parce que ça parle de l'identité notamment. Donc, c'était une étape importante de la formation, et ça devient très vite, à la modernité, une sorte de passeport du nu, c'est-à-dire un moyen de dire, voilà, je suis une artiste moderne, j'ai tout ce qu'il faut pour faire partie des avant-gardes, parce que justement, je vais être capable de représenter différemment, voire de déconstruire le nu. Et cette déconstruction du nu, on la voit apparaître très tôt, signée par des femmes, et pas du tout signée seulement par des hommes, comme moi, on me l'avait appris dans l'histoire de l'art que j'ai eu en fait en classe, hein, tout simplement. Voilà.
Bien, merci beaucoup de nous ouvrir les yeux à nous aussi, Camille Morino. Merci.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Boris Charmatz a annoncé son départ du Tanztheater Wuppertal Pinabausch.
Oui, le chorégraphe français était à la tête de cette grande institution depuis août 2022, à l'origine engagé pour un contrat de 8 ans. Ce dernier, en accord avec la direction artistique de l'établissement, a indiqué sa volonté de quitter son poste sans en préciser la raison. Situé à Wuppertal en Allemagne, le Tanztheater continue de représenter l'œuvre de Pinabausch qu'il a dirigée jusqu'à son décès en 2009. Avec cette compagnie, Boris Charmatz a notamment créé Forever Immersion dans Café Müller, ou encore Liberté Cathédrale, de grandes pièces chorégraphiques qui ont su rendre hommage et prolonger l'œuvre de Pinabausch.
À Notre-Dame, de faux billets sèment la pagaille chez les visiteurs.
Oui, le Figaro vient de révéler une recrudescence d'arnaques aux faux billets touchant les visiteurs de la cathédrale. Des sites internet frauduleux vendent des tickets payants alors que le lieu est gratuit. Certains sont vendus parfois jusqu'à 60 euros l'unité pour une visite guidée. Et ces contrefaçons touchent par ailleurs d'autres lieux. Devant l'afflux de visiteurs munis de faux billets, le musée d'Orsay, par exemple, a dû fermer pendant une journée sa billetterie en ligne. Souvent hébergés à l'étranger, ces sites miroirs imitent l'interface des institutions qu'elles copient. Alerté. Le gouvernement s'est saisi du dossier et prépare un décret pour sanctionner pénalement ces arnaques.
Et pour finir, Marie, une antenne de la Cinémathèque française va être créée.
Oui, son directeur Frédéric Bonneau a annoncé qu'une antenne ouvrirait à Marseille en 2026, dans un quartier situé au nord-ouest de la ville. Le lieu proposera une salle de cinéma, ainsi que des espaces dédiés et des expositions à des grands ateliers pédagogiques. Ce projet s'inscrit dans le plan Marseille en grand, mis en place par Emmanuel Macron en 2021 pour faire de la cité phocéenne la capitale du cinéma en Méditerranée. Cette antenne de la Cinémathèque française viendra s'ajouter à la Cinémathèque de Marseille, créée en 1975 et hébergée au Château de la Busine, ancienne propriété de Marcel Pagnol.
Merci Marie, et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.